Chapitre 9 Cocotte et Picpus. Aucun regard indiscret n'essaya de déchiffrer la poésie du voyageur taciturne. La chose certaine, c'est qu'il écrivait parfaitement à tâtons et que c'est là talent de poète. Autre chanson, poursuivit Adolphe qui s'animait à décrire son système de précaution. J'ai supposé les portes ouvertes, mais minute. Pour ouvrir celle de la rue, il faut le concierge, qui est un ancien gendarme, et dont le fils est tambour dans ma compagnie. C'est solide comme du fer. La porte de mon antichambre, sur le carré, a 3 serrures, dont 2 à secret et 2 verrous de sûreté. Le tout fourni par la maison Berthier. Dans mon antichambre, il y a le lit de Médor. Je n'ai pas connu Cerbère, mais je n'aurais pas parié pour lui contre Médor. On l'entend aboyer de la caisse, comme s'il était sous la table. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 judas acoustiques pratiqués par mes soins. Eh eh, mauvais pour Cartouche. La porte du salon s'ouvre au loquet et n'est défendue que par un quadruple verrou. Mais celle de la caisse est une fermeture Berthier à peine croisée et à double secret. Devant la porte, il y a une grille qui coupe la chambre en deux. Et la caisse elle-même, un vrai monument, et à défense et à surprise, comme l'ancien carillon du Pont-Neuf. J'en ai la clé pendue au cou, nuit et jour, à poste fixe. Mazette, pauvre mandrin, je couche d'un côté de la caisse, la chambre de madame est de l'autre, et notre garçon, un mâle, je l'ai choisi pour ça, dort entre nous deux. Madame a ses pistolets, moi les miens, et le garçon, 2 paires. Hein, les habits noirs? Quant aux fenêtres, fermées comme des devantures de boutique, 4 barres à chacune. Toutes les cheminées ont des grilles. Nous ne craignons que la bombe. Seigneur Dieu, dit l'huissière, autant vivre chez les Bédouins. Nous sommes bien heureux dans ce pays-ci, appuya l'adjoint. Quelle galère! Monsieur, ajouta le beau parleur, s'est bâti un château fort au milieu de la forêt noire. Le mot fut généralement approuvé. Céleste, dont les lourdes paupières se fermaient, reçut un 15e avertissement au sujet du poisson. Ce diable de muet continuait d'écrire à l'aveuglette. Écoutez donc, reprit Adolphe. Je ne suis pas un âne, mais je porte des reliques. Diable, j'ai les dépôts, le portefeuille courant et les espèces. J'ai eu chez moi la fortune du vieux colonel Bozzo, le grand-père de la comtesse Corona, et je ne vous en souhaite pas davantage. Dans quelques jours, j'aurai, avec notre fin de mois, la dot de Mademoiselle Blanche. Hé hé, feu Lasner n'aurait pas donné pour 2 ou 3 millions comptant l'affaire qu'on pourrait traiter avec moi ce jour-là à coup de couteau. Cette allusion au mariage de la fille unique de l'opulent banquier changea subitement le cours de l'entretien. Chacun glosa. Le baron Schwartz n'était pas très aimé dans ce pays-ci, selon l'expression favorite de l'adjoint Tourangeau, mais on s'intéressait énormément à ses moindres actions. Quoique la jolie Blanche sortît à peine de l'enfance, ses 2 millions de dots avaient produit leur effet. On ne donnait que la moitié aux filles du roi Louis-Philippe. 2 millions! Il avait été question d'un duc. Voyez-vous cela? Un duc pour l'héritière de cet Alsacien? Né sous un chou de Guebwiller? Il avait été question du neveu d'un ministre et question aussi d'un filleul de la cour. 2 millions. Cependant, on disait, faut-il qu'un duc ait besoin? Allez, il y en a qui ne sont pas à leur aise. Mais qui remplaçait le duc, le neveu du ministre et le filleul de la cour? Monsieur Champion nomma Monsieur Lecoq avec emphase. Vous vous attendez peut-être à voir ce nom ultra-bourgeois suivi d'un désappointement général? Erreur. Il y eut, au contraire, un de ces silences qui dénoncent un grand effet produit. Nul ne se demanda ce qu'était Monsieur Lecoq. On doit croire que chacun ici le connaissait au moins de réputation. L'adjoint toussa. L'huissière déploya son splendide foulard. Céleste tint ferme le poisson. Le taciturne remit en poche son papier avec son crayon. Le beau parleur seul murmura. Il y a de drôles d'animaux dans la forêt de Paris. Il disait vrai. Forêt ou non, Paris renferme les plus curieuses individualités qui soient au monde. Leur nom ne dit rien en soi. C'est la plupart du temps un nom innocent. Martin, Guichard ou Lecoq. Mais la gloire, doublée de mystère, peut donner aux plus vulgaires syllabes une foudroyante sonorité. Le nom de Lecoq était dans ce cas sans doute, car il produisit l'effet du quos ego de Virgile. La conversation, frappée d'un coup de massue, tomba et ne se releva point. Sur l'impériale, Échalot et Similor, Arcades Ambo, dialoguaient les glogues sentimentales de leurs rêves. C'étaient deux douces natures, pleines d'illusions enfantines et capables, peut-être de bien faire à la rigueur. Ils ne demandaient qu'à travailler. Seulement, ils voulaient choisir leur travail. Attirés qu'ils étaient par une vocation commune et irrésistible, vers cette chimère qui affole Paris et qui annonce la liberté. La liberté, comme ils l'entendent, consiste à ne pas subir le joug d'un métier. Ils se désignent même sous le vague nom d'artistes. Artistes de quel art ? Ils l'ignorent et peu importe. Ils vivent et meurent, tristes comiques du grand drame parisien. Ils voulaient faire des affaires. Ils voulaient parvenir. Et si modeste, si burlesque même que fut le but de leur ambition, ils n'avaient rien de ce qu'il faut pour l'atteindre. Ils allaient poursuivant je ne sais quel idéal si extravagant, si impossible que le lecteur ne le devinera pas sans un peu d'aide. « Ça se trouve, disait Similor en soupirant gros, c'est la chance. Un bourgeois qui nous chargerait de tuer un petit enfant, pas vrai, pour empêcher le déshonneur de la famille, connu, des nobles quoi. Et alors on l'emporte, on a le bon cœur de l'épargner, on le met avec Saladin. » Il aurait bien une marque à son linge, le petit noble, suggéra Échalot. Ou la croix de sa mère pendue au cou, quelque chose enfin. Une médaille, parbleu, avec sa chaîne, pas malin. Alors on garde l'objet avec soin, crainte que l'enfant l'égare dans les jeux de son âge ou autre, et quand, plus tard, on découvre la mère éplorée, c'est une preuve comme quoi on peut réclamer la récompense fastueuse. Échalot avait l'eau à la bouche. Il regarda d'un air chagrin Saladin suçant sa bouteille. « Ça s'est vu pourtant, » murmura-t-il. « C'est dommage qu'on sait la source de ton petit. »« Faut trop attendre, » dit Similor avec dédain. « Le moutard du prologue est officier dans la pièce. Le père est mort. C'est le même acteur qui joue les deux rôles. J'en préférerais mieux un secret que je découvrirais et qui ferait qu'une personne à son aise me donnerait mes étrennes à volonté tous les jours. »« Pas malin, » répliqua Échalot. « Si vous me refusez, je divulgue. » Et il fut doux, quoiqu'il grince des dents. C'est à quoi je fais la chasse dans le quartier. Par à deux, on mettrait le petit en culotte. Et appointement à perpétuité, la vie bien rangée, pas de dette ni bamboche, estimée dans ce domicile par les voisins, dont la fille de l'un d'eux peut vous distinguer pour le mariage. Échalot, qui l'écoutait, souriant et bouche béante, devint triste. Sans cœur qui se marie, s'écria-t-il, ça nuit au droit de l'amitié. Similor n'accepta point la discussion sur ce point, toujours si brûlant entre Oreste et Pylade, et fit un riant tableau des douceurs qu'on peut se procurer avec l'argent d'un dentiste, dont on a surpris la coupable habitude qu'il a de chloroformer les femmes dans le silence de son cabinet. Le ciel étendait au-dessus de leur tête son dôme d'azur, parsemé d'étoiles. Par-delà cette splendide coupole, il devinait le dieu des bonnes gens dont le Sinaï est la butte Montmartre, et qui aime les chansons bien mieux que les cantiques. Ils élevaient leurs âmes simples vers cette divinité, protectrice du mélodrame et protégée par la goguette pour lui demander l'enfant du crime ou le dentiste infesté de mauvaises habitudes. À l'étage en dessous, dans le coupé, ce personnage aux allures tranquilles et robustes, que nous avons appelé Monsieur Bruno, écoutait les dernières paroles du récit d'Edmé Lebert. La jeune fille, demi-couchée, s'était épuisée à parler. La lanterne de la voiture, glissant un rayon oblique jusqu'à son visage, éclairait ses traits pâles et défaits. Il n'y avait point de larmes dans ses yeux. Monsieur Bruno restait froid et croisait ses bras sur sa poitrine. Ses yeux portaient dans le vide une fixité de regard qui leur était particulière. Tout semblait engourdi en lui, même la pensée. Edmé Lebert, obéissant aux ordres de cet homme, avait tout dit. Il ne lui donna ni consolation, ni conseil. Cependant, la voiture avait passé la barrière et cahotait déjà sur le pavé du faubourg. Quelques minutes après, Elle franchissait le boulevard et entrait dans la cour du plat d'étain. Il y eut dans l'intérieur un moment de confusion pénible. Voyageurs et paquets mis en branle trop brusquement s'entrecognèrent à qui mieux mieux. Un instant, Adolphe en fut réduit à veiller lui-même au poisson. Puis, tout le monde à la fois cria. Trois pattes? Où est trois pattes? D'ordinaire, l'estropié se tenait derrière la voiture, la tête au niveau du marchepied, et ses deux robustes bras recevaient les paquets à la volée, sans qu'il y eût jamais perte ou accident. Mais aujourd'hui, trois pattes manquaient à son poste. Voilà, bourgeois, voilà, dit Similor avec son sourire le plus agréable. Et Échalot, empressé à bien faire, salada au dos pour avoir les mains libres. Bourgeois, voilà, voilà. Le voyageur taciturne qui descendait le premier les écarta des deux coudes. Il n'avait point de paquet. Tiens, tiens, murmura Échalot. Picpus est remplumé depuis le temps. Et voilà Monsieur Cocotte dans le fond, ajouta Similor. Il est habillé comme un rentier. Ce sont les chaussons de lisière, dit Madame Blot de Vaujours, non sans un certain effroi. Adolphe dit, en montrant du doigt son ennemi Échalot, en voici un qui a l'air d'un malfaiteur de la plus dangereuse espèce. Au large, coquin, ordonna l'adjoint de livrée. Dans ce pays-ci, la mendicité est prohibée. Échalot et Similor n'étaient peut-être pas précisément des coquins. Ils avaient tous deux la tête près du bonnet. Cependant, ils se retirèrent, et l'adjoint put se croire un vainqueur. Il se trompait. Ce n'était pas à son commandement que les deux amis modèles avaient obéi. De l'autre côté de la voiture, un appel discret avait frappé leurs oreilles. Monsieur Bruno, debout près de la portière du coupé, leur faisait signe de la main. Monsieur Bruno leur dit « Accompagnez Mademoiselle Lebert jusque chez elle. » Et il s'éloigna rapidement, sans attendre leur réponse, en homme sûr d'être obéi. L'intérieur se vidait. Céleste, chargée à couler bas, prit terre en soufflant comme une baleine. Madame Blot, veuve de son pauvre Blot, eut la cruauté de lui dire en passant. « Bien le bonsoir, madame, les soirées sont fraîches. » Elle offrit son bras à Tourangeau qu'il accepta, malgré la rivalité des deux communes. Adolphe descendit, libre de ses mouvements, fier de son costume, fier de ses formes, fier de son sexe, fier de tout. L'Apollon parisien, quand son obésité reste contenue en de certaines bornes, est l'image du parfait bonheur. Adolphe avait envie d'appeler les passants pour leur montrer ses guêtres. Il choisit le moment où il pouvait être entendu pour dire à haute voix « Madame Champion, c'est trop lourd pour toi, ne te fatigue pas à porter le poisson. » Et, tournant l'angle du boulevard Saint-Denis, « C'est une lutte très intéressante entre moi et ce brochet, je l'aurai. Aujourd'hui, sur les bords du canal, mes voisins ne prenaient rien, absolument, et enviaient mon adresse. Je n'ai pas pêché que des goujons, ma femme. As-tu vu quelle publicité j'ai faite dans la voiture? Il faut être de son siècle. Tu peux compter que ces deux inconnus, le bavard et le muet, vont aller dire partout. La maison Schwartz a un bijou de caissier. C'est de la graine d'augmentation. Mais quelle chaleur, Adolphe! Soupira Céleste, renonçons pour ce soir, je n'en peux plus. C'est une bonne température, répondit Monsieur Champion. J'irai comme cela jusqu'à Pontoise. À quelques pas de là, une scène fort immorale mais assez gaie avait lieu. Le voyageur taciturne, à qui Échalot avait donné le singulier nom de Picpus, était arrêté devant la devanture d'un licoriste. Il avait retrouvé son mouchoir, sans doute. Du moins déployait-il avec complaisance un magnifique foulard tout neuf. Le beau parleur l'aborda, celui que notre similor appelait Monsieur Cocotte. Tous deux étaient passablement couverts. La toilette de Cocotte avait plus de brillant, celle de Picpus plus de sévérité. On pouvait prendre Cocotte pour un membre de la jeunesse dorée du boulevard du crime. Picpus ressemblait davantage à un troisième clerc d'avoué. Quant à leur figure, Cocotte était joli garçon, Picpus, moins agréable à voir, tournait au père noble. Combien donnes-tu là-dessus? Demanda Cocotte en présentant à son compagnon la tabatière de Madame Blot de Vaujours. Moi, je n'en use pas. Picpus mit dans sa poche le foulard neuf de cette même rentière et répondit « J'ai la mienne. » En même temps, il s'arrêta en plein trottoir et, dépliant le cornet de papier que nous connaissons, Il en versa le contenu dans une très belle boîte d'argent niellé. Cocotte sourit et dit « J'ai été aussi, moi, dans la poche de la caissière. Mais il n'y avait plus personne. Elle tenait bien le poisson. » Ils entrèrent chez le licoriste et se firent servir l'absinthe sur le comptoir. « Le coupé du baron Schwartz nous a dépassé sur la route, » reprit Cocotte. « L'as-tu vu ?»« Oui, » répliqua Picpus. « Et aussi la calèche de madame la baronne. » Elle venait la seconde, c'est le mari qui est le bœuf. Qu'est-ce qu'ils peuvent manigancer à Paris le dimanche au soir? Demande au patron, s'écria Cocotte en riant. Cela ne pêche pas aux foulards et aux tabatières. Picpus prit un air grave. À propos de quoi, jeune homme, dit-il, vous êtes seul au monde à savoir que je continue de faire un doigt de contrebande en servant le patron. C'est puni sévèrement. Et la semaine dernière, on a encore fait passer la consigne de ne pas voler la moindre des choses en dehors des coups montés. Si la maison venait à savoir... Je t'en dis autant, vieux, l'interrompit Cocotte. Il n'y a qu'avec toi que je ne me gêne pas. Si tu causais, voilà. C'est assujettissant tout de même, fit observer Picpus. On est comme le soldat mercenaire. Droite, gauche, front. Les yeux à 15 pas devant vous. Et s'il se présente une bonne affaire, pas mèche. Pas mèche, en principe, comme disait mon ancien avocat, Monsieur Contentin. Mais il y a ça et ça. On se rattrape à la sourdine et on vit à l'abri des charançons. Ça c'est vrai, répliqua chaleureusement Picpus. La maison doit être abonnée avec le gouvernement, car il n'arrive jamais d'accident. On dirait qu'il n'y a plus ni police, ni parquet, ni rien de rien. Et voici l'agrément qui fait passer sur l'humiliation de la discipline, conclut Cocotte. Ils trinquèrent et burent en homme du monde. Combien ils étaient au-dessus des chalots et de similor. Après avoir reposé son verre sur le comptoir, Cocotte, qui avait un naturel généreux, ouvrit pour payer le porte-monnaie de Monsieur Chambion. En sortant, il passa son bras sous celui du Picpus et dit tout bas « Tu es plus ancien que moi dans la baraque. Combien sont-ils d'habits noirs en pied à ton idée ?»« Est-ce qu'on sait ?» répliqua Picpus avec importance. Puis, d'un ton fier et sérieux, « Ça prend de bien haut et ça descend en zigzag jusqu'aux plus infimes profondeurs du marécage social. » Sur deux voleurs, il y en a 9 qui ont du style. Lasner n'était pas du tout une exception. Picpus avait une littérature sérieuse. Cocotte, plus jeune et plus hardi, unissait la gaieté française à de bonnes études. C'était deux jolis sujets. Cocotte reprit. Et à ton idée toujours, est-ce le patron qui est le maître à tous? L'habit noir, prononça Picpus en donnant à ce nom une intraduisible emphase. « Oui, l'habit noir, des habits noirs !» Puis il grommela comme à regret. « Moi, je n'ai jamais été que jusqu'au patron. S'il y a quelque chose au-dessus, cherche !» Mais il ajouta de dessus d'après. « Petit, c'est là le joint. Si on savait la chose, on serait riche. On est instruit, n'est-ce pas? Et on a le fil. Eh bien, ça fait mal au cœur de rester dans les subalternes. »« À qui le dis-tu ? » s'écria Cocotte. « Moi qui ai fait des couplets qu'on chante dans les goguettes les plus panachées !» Il te tient dur, le patron, eh ? Picpus lui serra le bras fortement et gronda, comme toi, par le cou. Ils passèrent le seuil d'un second licoriste. Ces choses se font naturellement, et comme on met un pied devant l'autre. De 20 pas en 20 pas, dans Paris hospitalier, la ruine verte peut ainsi ponctuer une conversation intéressante. D'où venais-tu ? Demanda Cocotte en quittant le second comptoir. Du château, et toi ? De plus loin et de plus près. J'avais affaire au caissier et à la comtesse. Quelle affaire? Et toi? Ils s'arrêtèrent non loin du conservatoire des arts et métiers et se regardèrent dans le blanc des yeux. Le choc de leurs prunelles dégagea vraiment une étincelle de diabolique intelligence. La comtesse Corona en mange-t-elle? Murmura Picpus. Ça se pourrait. Et le banquier? Non, tu sais bien que non, puisque tu as en poche l'empreinte de la clé de sa caisse. Cocotte eut un vaniteux sourire. Ils avaient fait volte-face et remonté vers la porte Saint-Martin. « C'est vrai que j'ai piqué l'empreinte, » dit Cocotte, « mais pas au château. Le banquier serait digne d'en être, pas moyen de l'approcher. C'est quand l'imbécile au goujon a dit qu'il portait toujours sa clé au cou, comme une médaille bénie que j'ai joué des doigts. Veux-tu me faire l'honneur de me narrer ce que tu as écrit dans la patache ?» Il passait sous un réverbère. Picpus plongea sa main dans les profondeurs de sa poche et en retira son calepin qu'il ouvrit. Une page entière était chargée d'écriture. Ce n'était pas de la poésie. Cocotte lut par-dessus son épaule. Porte d'entrée sur la rue, fil de fer à couper. Porte de l'entresol sur le carré, idem. Plus deux serrures de sûreté, une ordinaire, deux verrous. Mets l'or dans l'antichambre, au lentour de la caisse par deux vasistas ouverts. Porte de la caisse, fermeture Berthier à peine croisée, double secret, grille, caisse à attrape. Trois personnes armées, une grosse femme, une poule mouillée et un garçon solide. Valeur fin du mois, 2 à 3 millions. Ces notes avaient été prises dans les ténèbres. Malgré cette circonstance et en dépit des chaos de la patache, l'écriture était large et lisible. On devinait là une superbe main d'expéditionnaire. Exact, dit Cocotte. Avec l'empreinte et ça, on peut dire, servez. Combien aurons-nous là-dessus?
Un morceau de pain, répondit Picpus qui serra son carnet.
Et si nous vendions l'histoire au banquier?
Picpus tressaillit et lança tout autour de lui un regard de bête fauve. Un mot vint jusqu'à sa lèvre, mais il montra son cou d'un geste significatif et dit, en se forçant à sourire,
« Ce ne serait pas délicat. »
Ils tournaient l'angle de la rue Notre-Dame de Nazareth. Trois fiacres stationnaient le long du trottoir, en face de la seconde maison, qui est l'avant-dernière selon l'ordre des numéros. C'est à la porte de cette maison qu'Aimée Lebert avait été conduite, sur l'ordre de M. Bruno, par nos deux amis, Échalot et Similor.
« Il y a de la société chez le patron, » dit Cocotte sans s'arrêter. Les deux premiers fiacres étaient vides. Par la porte fermée du troisième, l'œil perçant de Cocotte devina plutôt qu'il ne vit une figure de femme.
« La comtesse » murmura-t-il.
« Voilà une qui travaille dur. »
Picpus jouait admirablement l'homme qui n'a rien vu. Ils entrèrent tous deux, et Cocotte mit sa tête goguenarde au vasistas du concierge en disant
« Oui, Rabot, vieux Rodrigue, a-t-il fait jour aujourd'hui ?»
Le portier souleva l'énorme abat-jour vert qui protégeait ses yeux enflammés et répondit « Toute la journée. »«
Va bien, » dit Picpus par derrière. « Et rien de nouveau ?»«
Rien. »
Picpus mit à son tour la tête au vasistas.
« Est-ce que Monsieur Bruno est toujours votre voisin ?» demanda-t-il en baissant la voix.
« Maison d'à côté, quatrième porte à gauche. »«
Et trois pattes ici, quatrième porte à droite ?»«
Juste après. »
« Est-il malade, trois pattes ?
Pourquoi ça ?
Il n'était pas ce soir à l'arrivée de la voiture. »
Le concierge ôta du coup son abat-jour.
« Pas possible, » fit-il. « Un dimanche. Après ça, vous savez, je ne suis pas l'espion des locataires. Monsieur Lecoq dit que c'est la maison du bon Dieu ici. Liberté, libertas. Chacun mène son commerce comme il l'entend. » Ses yeux rouges et blessés par l'éclat de la lampe s'abritèrent de nouveau sous sa vaste visière.
« Est-ce que ce paroissien-là vient quelquefois voir le patron ?» interrogea encore Picpus avec une certaine hésitation.
« Qui ça, trois pattes ?»«
Non, Bruno. »
Le portier haussa les épaules et répondit en se remettant au travail. « C'est l'escompteur de Monsieur Michel et de Petit. On dit pourtant qu'il en mange. »«
Timbré !» ordonna Picpus.
Le vieux Rabot poussa un bouton et une vibration argentine se fit entendre à l'étage supérieur. Nos deux camarades montèrent. Une ombre passa derrière le grillage de la porte. La figure calme et froide du protecteur d'Aimée Lebert s'y montra un instant, puis disparut.